Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on va décortiquer un document académique, vraiment très récent puisqu'il a été publié en janvier 2026.
Oui, c'est tout frais, ça vient directement des actes du 92e congrès de l'ACFAS.
Exactement, et on va se concentrer sur un passage très spécifique, c'est le chapitre 12. Il a été rédigé par la chercheuse Rosette Mongon-Goua. Le titre pose tout de suite le décor. Le titre, c'est « Décoloniser la gestion scolaire, repenser les structure éducative en regard de la mémoire de l'esclavage et de l'héritage colonial ».
C'est un vaste programme, oui.
Et c'est une approche assez singulière.
Mais oui, parce que d'ordinaire, quand on entend parler de décoloniser l'éducation, on pense presque automatiquement aux choses visibles, non ? La révision des manuels d'histoire, les langues autochtones qu'on essaie de ramener en classe, la diversité des auteurs, ce genre de choses, ouais.
Voilà, mais là, cette recherche, elle s'attaque carrément à l'infrastructure. L'organigramme, la bureaucratie, la philosophie de gestion, même qui fait tourner une école au quotidien. D'accord, décortiquons cela. Quel est vraiment le but de cet auteur ?
Eh bien, son approche offre une grille de lecture hyper analytique. Le but, ce n'est pas du tout de faire le procès du passé avec nos lunettes d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment l'architecture administrative qui a été directement héritée des administrations coloniales, comment cette architecture continue de dicter l'autorité et l'exclusion dans les écoles actuelles, avec un focus particulier sur l'Afrique subsaharienne.
D'accord.
Et ce que les données montrent, c'est que cette armature bureaucratique marginalise, voire efface volontairement, la mémoire de l'esclavage et les systèmes de pensée locaux.
Un point essentiel pour l'auditoire. Notre mission ici, c'est d'explorer en profondeur ce document. On restitue les thèses des chercheurs de façon totalement impartiale. Ce sont des questions historiques et politiques majeures, et notre rôle n'est pas de prendre parti, mais de décortiquer ces concepts sociologiques complexes pour bien les comprendre.
Absolument. C'est une posture nécessaire parce qu'on manipule des concepts de sociologie politique. Il faut une lecture distanciée pour voir comment le pouvoir se reproduit à l'échelle d'une institution.
Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La première observation de l'auteur, et c'est très frappant, c'est ce qu'elle nomme l'illusion de l'inclusion. En gros, les tentatives actuelles pour rendre les écoles plus inclusives sont considérées comme ratées parce qu'elles restent symboliques.
Oui, purement cosmétique en fait.
C'est ça. Le texte s'appuie sur Ramon Grofugel, un chercheur cité pour ses travaux de 2011, qui dit que décoloniser l'éducation, ça demande de dépasser cette inclusion symbolique pour questionner les murs porteurs, l'architecture de l'institution.
C'est une excellente métaphore.
On pourrait faire un parallèle avec l'informatique. C'est comme si on mettait à jour l'interface graphique d'un vieux logiciel pour que ça ait l'air moderne, mais que le code source, le fameux legacy code, restait bloqué sur des algorithmes des années 90. Tant qu'on ne réécrit pas le code source, le logiciel fera les mêmes erreurs, peu importe si les boutons sont plus jolis.
Ce legacy code, c'est exactement ce que le texte aborde via un concept du sociologue Hannibal Quijano, qui est la colonialité du pouvoir. Ce que ça veut dire, c'est que la fin des administrations coloniales officielles n'a pas fait disparaître les hiérarchies qu'elles avaient créées. Et à l'école, ça donne une hiérarchie épistémique, une hiérarchie des savoirs.
Concrètement, ça se manifeste comment ?
Une administration scolaire va toujours valoriser par défaut les procédures ou les formats d'évaluation venus d'Europe, en les voyant comme le seul standard de l'intelligence. Et en face, les savoirs vernaculaires ou les gestions de conflits communautaires seront vus comme, disons, inappropriés ou pas assez académiques.
Et le traitement de la mémoire de l'esclavage est un symptôme parfait de ce décalage. L'étude montre que cet enseignement est non seulement morcelé, mais très eurocentré. Les programmes parlent beaucoup de l'abolition, souvent présentée comme une grande initiative morale européenne, et ça met sous le tapis toutes les résistances africaines, les révoltes, ou même l'économie derrière ce système.
Ouais, c'est un point central du chapitre.
Il y a l'exemple du Sénégal dans le texte. L'île de Gorée, c'est un lieu de mémoire mondiale pour la traite négrière. Mais l'étude souligne que dans le système éducatif sénégalais, le rôle de Gorée se limite à des petites visites de terrain de temps en temps. Ce n'est pas intégré dans la pensée de l'école. C'est juste une excursion.
Sociologique, c'est de comprendre ce que notre société actuelle fait de cet héritage.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire comprendre comment ce silence a créé les inégalités d'accès à l'école ou pourquoi certaines langues sont rabaissées au rang de dialectes interdits en classe.
Ça change toute la perspective. L'histoire devient un outil pour diagnostiquer les failles de l'administration d'aujourd'hui. Et si ce système classique crée ses angles morts, il faut regarder les alternatives. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que Rosette Mongon-Goua ne dit pas qu'il faut raser l'école moderne pour retourner l'impassé précolonial idéalisé, non. Sa proposition, illustrée par la figure 15 du document, c'est un modèle hybride, un cadre d'analyse intégratif.
C'est le cœur théorique de sa recherche. Elle propose de fusionner deux mondes qui s'ignorent. D'un côté, on a la pensée décoloniale, qui amène l'esprit critique, qui déconstruit la verticalité du pouvoir et valorise les savoirs locaux. Et de l'autre côté, et c'est là que c'est novateur, on a les sciences de la gestion éducative moderne.
Le management, en gros.
Oui, mais des concepts comme le leadership transformationnel et distributif.
Donc on garde l'exigence d'organisation et de résultats, mais on change la répartition du pouvoir. Parce que le modèle classique qu'on connaît, c'est une pyramide très stricte. Un ministère au sommet qui donne des directives à un directeur tout-puissant qui lui-même impose ça aux profs. Le modèle hybride, lui, veut basculer sur une gouvernance horizontale. Le pouvoir est redistribué à la communauté. Et le rôle du directeur ou de la directrice d'école change complètement.
Radicalement, oui. Ce n'est plus un simple bureaucrate qui fait redescendre les ordres de l'État. Ça devient un médiateur culturel, quelqu'un qui doit adapter les exigences de l'État au contexte historique de sa région. Ça demande une grande agilité épistémique.
Agilité épistémique, c'est un beau terme.
C'est utiliser les outils d'évaluation modernes, mais pour soutenir un projet qui a du sens localement, pas pour uniformiser tout le monde. L'efficacité managériale devient un outil de justice sociale.
Et ce qui fait la force de cette source, c'est qu'elle ne reste pas bloquée dans la théorie. Il y a tout un tour du monde de solutions empiriques. L'hybridation, ça fonctionne déjà sur le terrain. L'étude de cas principale du texte, c'est le Cameroun.
Un terrain hyper intéressant, le Cameroun.
Complètement. À cause de sa double histoire coloniale, à la fois française et britannique, l'État a imposé une centralisation extrême pour forcer l'unité nationale après l'indépendance. Le texte décrit ça comme très étouffant. Mais, et c'est là que la théorie s'applique, dans l'ouest et le centre du Cameroun, des comités ruraux de gestion scolaire informelle ont émergé.
Et ces comités ne sont pas juste des associations de parents d'élèves classiques. Ils incluent les chefs traditionnels, les figures d'autorité coutumière et des jeunes.
Et ça a des conséquences directes. Le détail qui tue dans l'étude, c'est l'aménagement du temps. Ces comités ont obtenu le droit de synchroniser le calendrier de l'école avec le calendrier agricole local, donc on ne punit plus les élèves qui s'absentent pendant les récoltes. L'école s'adapte à l'économie réelle. Et en plus, ils enseignent l'histoire locale de l'esclavage lors d'activités parascolaires pour combler les trous du programme national.
C'est la preuve qu'on peut passer d'une école imposée d'en haut à une école concertée. Le document part ensuite au Kenya, où on observe la porosité entre les savoirs scolaires et communautaires. Dans des zones ruraux, l'administration pousse les enseignants à utiliser des techniques artisanales ou agricoles dans les cours de sciences dures.
L'artisanat pour les mathématiques. Exactement. Ils utilisent l'artisanat perlier traditionnel pour enseigner la géométrie complexe. C'est une vraie rupture. L'école reconnaît que la science valide n'est pas seulement dans les manuels importés, mais qu'elle vit déjà dans les pratiques de la communauté.
Super intéressant. L'exploration continue aussi avec le Ghana. Le chercheur y observe une décentralisation étatique où les comités locaux ont récupéré de vraies responsabilités budgétaires. Et le résultat ?
Associé à l'utilisation des langues locales en début de scolarité, ça a fait chuter le taux de décrochage scolaire. L'école n'est plus vue comme une entité étrangère. Et puis, il y a le cas de l'Afrique du Sud.
Oui, l'Afrique du Sud, c'est un contexte très lourd, avec le besoin de déconstruire l'héritage de l'apartheid. Là-bas, ils essaient d'intégrer institutionnellement la philosophie de l'Ubuntu.
Je suis parce que nous sommes.
C'est ça, l'interdépendance humaine. Dans la gestion, ça veut dire remplacer un management basé sur la compétition, les classements individuels, par une évaluation basée sur la coopération. Bon, le texte reste rigoureux et précise que c'est très difficile à mettre en place, à cause du manque de moyens dans les townships et du poids de l'ancienne bureaucratie.
L'inertie du système.
Voilà. Mais le changement de paradigme est lancé. En fuite, l'auteur nous emmène au Brésil.
Oui, les écoles afrocentrées brésiliennes, souvent situées dans les communautés quilombolas. Là-bas, une loi oblige à enseigner la culture afro-brésilienne, mais ces écoles vont plus loin. Elles intègrent les leaders respectés de la communauté dans la gouvernance. Et on y enseigne la capoeira, par exemple, pas juste comme un sport, mais comme une discipline historique de résistance.
Et ce que les données montrent, c'est que malgré le manque de financement que souligne la recherche, ces pédagogies ancrées dans l'identité font grimper en flèche l'assiduité et les notes des élèves afrodescendants. La légitimité culturelle améliore la réussite scolaire, tout simplement.
C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le milieu scolaire devrait s'y intéresser ?
C'est le fameux « so what », l'enjeu global.
Exactement. Que l'on gère une entreprise, une association ou des politiques publiques, ce texte donne une vraie leçon sur le changement institutionnel. Ça nous dit que les organigrammes et les procédures ne sont jamais neutres. Ils portent en eux la vision du monde de ceux qui les ont créés.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'auteur tire une conclusion limpide. Elle dit, en substance, que la table des décisions n'a pas seulement besoin d'être élargie, elle doit être redessinée.
Redessiner la table, j'aime beaucoup cette image. Si on invite une personne d'un groupe marginalisé à siéger à un conseil d'administration juste pour les statistiques de diversité, mais que les règles du jeu, l'ordre du jour et la façon de prendre des décisions restent fixées par l'ancienne culture dominante,
sa présence ne changera absolument rien au système.
Exactement. C'est pareil pour l'école. Ajouter un seul paragraphe sur les résistances à l'esclavage dans un livre de 300 pages qui glorifie l'empire colonial, ça ne change pas le code source. Il faut décentraliser la prise de décision. Il faut accepter que l'expertise vient aussi de la base.
C'est pour ça que l'hybridation managériale demande à l'État central de lâcher un peu prise, de renoncer à son contrôle absolu pour laisser émerger une intelligence collective locale. Le document cite à la toute fin le sociologue Boaventura de Sousa Santos, qui voit l'école non pas comme un appareil d'État froid, mais comme, je cite, un lieu d'utopie praticable.
Des utopies praticables. Ça résume parfaitement les comités au Cameroun ou les écoles quilombolas au Brésil. Ce sont des choses qui existent, qui fonctionnent aujourd'hui.
Et cela soulève une question importante, un peu vertigineuse, pour aller au bout de la logique de ce texte.
Je vous écoute.
Imaginons qu'on applique ce modèle hybride partout. Si chaque communauté scolaire devient totalement décentralisée, avec le pouvoir d'adapter l'enseignement de la vérité historique, des sciences ou des langues à sa réalité hyperlocale, est-ce que le concept même d'un système éducatif national, unifié et standardisé pour des millions de personnes, n'est pas en soi une relique coloniale?
Oula, oui!
C'est une vraie question sociologique. Est-ce qu'une mosaïque de réalités éducatives locales peut encore former une nation? Ou est-ce que c'est la fin de ce modèle très centralisé qu'on a exporté partout dans le monde?
C'est une réflexion fascinante pour clore cette exploration. Remettre en cause l'uniformité nationale comme symbole ultime du progrès, ça ouvre des perspectives immenses. En tout cas, merci à l'auditoire de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des structures invisibles qui façonnent notre société. On a vu qu'il suffit parfois de gratter la surface de l'administration pour découvrir de grands enjeux historiques. On espère que ça nourrira les réflexions de quiconque s'intéresse à la manière dont nos institutions fonctionnent. À très bientôt pour une nouvelle analyse de sources.